Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le 19 juillet 2024 et depuis trois semaines, chaque après-midi, ce sont des étudiants et étudiantes de l'UTC qui sont à l'antenne dans le cadre de la matière WE01. Et aujourd'hui, c'est la dernière des dernières avant le semestre prochain. Alors, dans WE01, pour résumer à celles et ceux qui n'étaient pas là il y a une petite demi-heure, on étudie le fonctionnement du web et plus généralement du numérique qui est omniprésent autour de nous. Il suffit de faire l'expérience, d'essayer de relire sa journée et de regarder à tous les moments qu'on a été confronté plus ou moins au numérique, que ce soit du smartphone à la caméra de surveillance, au pass Navigo, que sais-je. Enfin voilà, ça peut être une expérience amusante. En tout cas, pendant tout le semestre, les étudiants et les étudiantes ont travaillé sur plusieurs problématiques en rapport avec le numérique. Et aujourd'hui, à la radio, ils et elles vous restitue une partie de ce travail. Je m'appelle Quentin et pour cette dernière émission du SMES, je suis accompagné d'Aléna, Emmanuel, Julien et Vivien. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, on avait parlé de la récolte de données et d'influence politique sur les réseaux sociaux, notamment à travers le scandale Cambridge Analytica. Et vous, aujourd'hui, vous avez choisi de nous apporter un éclairage complémentaire et très important sur le sujet, car vous avez travaillé sur les interactions entre santé mentale et réseaux sociaux. Donc, c'est une perspective un peu plus centrée sur l'individu, un peu moins sur la société, bien qu'évidemment les deux soient liés. Et dans cette émission, on parlera addiction, conséquences psychologiques, mais aussi conséquences sociales et possibles remédiations. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, restez sur notre antenne, car à coup sûr, à la fin, vous questionnerez votre utilisation des réseaux sociaux. Emmanuel, c'est à toi pour une introduction sur le sujet.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Les réseaux sociaux ont transformé notre manière de communiquer, de partager et d'interagir. Bien qu'ils offrent de nombreux avantages, ils comportent aussi des risques significatifs pour notre santé mentale. Quels sont les mécanismes sous-jacents à l'addiction aux réseaux sociaux et quelles en sont les conséquences psychologiques, sociales et physiologiques? Nous explorerons d'abord pourquoi les réseaux sociaux peuvent devenir si addictifs, puis nous examinerons les répercussions de cette addiction et enfin les approches de prévention et de traitement. Ensemble, nous allons décortiquer ces questions pour mieux comprendre comment les réseaux sociaux peuvent à la fois enrichir et menacer notre santé mentale, et comment nous pouvons agir pour minimiser les effets négatifs. Tout d'abord, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est l'addiction aux réseaux sociaux. L'addiction aux réseaux sociaux se manifeste par un comportement compulsif et excessif vis-à-vis de plateformes comme Facebook, Instagram ou Twitter. Les individus ressentent souvent un besoin compulsif de vérifier leurs notifications, de partager du contenu et d'interagir en ligne pour maintenir un sentiment de connexion et d'appartenance. Le caractère addictif des réseaux sociaux est renforcé par leur accessibilité permanente, en particulier depuis la généralisation du smartphone. Maintenant que nous comprenons ce qu'est l'addiction aux réseaux sociaux, explorons les mécanismes neurobiologiques qui la sous-tendent. Les recherches en neurosciences montrent que l'utilisation excessive des réseaux sociaux active les mêmes circuits cérébraux associés à la récompense et au plaisir que d'autres comportements addictifs. Ces activités stimulent le système de récompense du cerveau, notamment le noyau acubain, qui réagit à la fameuse dopamine et le cortex préfrontal ventromédian, impliqué dans la régulation de l'humeur et la prise de décision, comme l'explique Darmeschi dans un article en 2013. Malgré cela, l'addiction à Internet n'est pas encore officiellement répertoriée comme un trouble mental dans la dernière version du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5. Faudra-t-il un jour considérer l'usage des réseaux sociaux comme une addiction, au même titre que l'alcool ou la drogue? C'est la question à laquelle Nicolas Demorand tente de répondre sur France Inter en 80 secondes à partir d'un article d'Olivia Leng publié dans Le Guardian.
Alors c'est là où je m'excuse parce que je me suis embrouillé dans les extraits. Alors je vais les mettre et tu vas me dire si c'est celui-là ou pas.
Ok. Est-ce que les réseaux sociaux, ça...
Non.
En quoi ça peut...
Allez.
Non.
Aïe, 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 aïe. Je suis vraiment désolé. Hop. Et c'est parti pour le bon extrait.
Faudra-t-il considérer un jour l'usage des réseaux sociaux comme une addiction, au même titre que l'alcool ou la drogue ? 80 secondes ce matin sur un article d'Olivia Lang, publié dans le Guardian. Elle est écrivaine, elle fut une collaboratrice du journal. Elle y décrit sa relation à Twitter avec des mots qui rappellent certains témoignages de personnes ayant traversé l'enfer des addictions. D'abord, le bonheur de vivre plus intensément, en l'occurrence d'être informé tout le temps, partout, et d'aimer ça. Très vite, sa vie s'organise autour de ce plaisir qui se transforme lentement en obsession. Elle s'endort avec son ordinateur, elle s'éclipse en plein mariage pour regarder frénétiquement les derniers développements de la démission d'un conseiller de Trump. Enfin, Olivia Lang s'aperçoit que sa capacité à agir, à penser, à éprouver, se trouve endommagée, peut-être, dit-elle, de manière irréversible. Ce témoignage n'est pas le point de vue piquant ou paradoxal d'une journaliste qui chercherait simplement à écrire une belle tribune. On sent une souffrance qui, à mon avis, est plus largement partagée qu'on ne l'imagine. Après avoir décroché de Twitter, car c'est bien ça le mot, sa drogue douce est désormais Instagram, dit-elle avec humour, où elle prend plaisir à regarder des photos de jardins et de plats cuisinés et à ne plus jamais entendre parler de politique. C'est à lire en anglais sur le site du Guardian. Vous trouverez évidemment le lien sur notre propre site internet.
Nous allons maintenant identifier les facteurs psychologiques qui favorisent l'addiction aux réseaux sociaux. Plusieurs facteurs psychologiques peuvent contribuer au développement de cette addiction. Par exemple, les personnes éprouvant de l'anxiété sociale ou de la solitude peuvent chercher une connexion en ligne où elles peuvent contrôler leur image et leurs interactions sociales. De plus, ceux qui accordent une grande importance à l'estime de soi basée sur les interactions en ligne sont particulièrement vulnérables. Les individus accros au réseautage, terme utilisé par Kuss et Griffith, ressentent un besoin compulsif de rester connectés à leur communauté, de suivre de près les événements et de vérifier l'impact de leurs interactions, comme le nombre de likes reçus par exemple. Les caractéristiques spécifiques des plateformes, telles que les notifications et les fils d'actualité infinis, peuvent également encourager un comportement compulsif en créant un environnement hautement addictif. Enfin, examinons comment les plateformes de réseaux sociaux sont conçues pour maximiser l'engagement des utilisateurs, favorisant ainsi l'addiction. En effet, après être passé par les laboratoires de psychologie comportementale de Stanford, Nir Eyal a publié un ouvrage de référence lu par les entrepreneurs de la Silicon Valley expliquant comment créer un produit addictif. Ainsi, les réseaux sociaux exploitent les techniques psychologiques sophistiquées pour maintenir notre attention. L'une des principales méthodes est la boucle de rétroaction, comme le décrit Fogg en 2003. Elle repose sur trois étapes. Une stimulation, comme une notification de like ou de commentaire. Une action, c'est-à-dire vérifier cette notification. Et enfin, une récompense, comme la validation sociale reçue, par exemple. Ce cycle de récompense intermittent fonctionne comme les machines à sous, renforçant le comportement répétitif et rendant difficile de se détacher de l'écran. Les notifications push jouent également un rôle crucial. Ces rappels constants attirent notre attention même lorsque nous n'utilisons pas activement l'application, nous signalant des interactions sociales ou des mises à jour et nous incitant alors à revenir vérifier l'information. Le scroll infini est une autre stratégie clé. Cette fonctionnalité permet de faire défiler sans fin les contenus sur notre fil d'actualité, augmentant ainsi le temps passé sur la plateforme, car il y a toujours une nouvelle information ou un nouveau contenu à découvrir. La conception de l'interface utilisateur est également cruciale. Les interfaces visuellement agréables et intuitives facilitent une navigation sans effort et un engagement continu. Enfin, les réseaux sociaux exploitent nos besoins psychologiques fondamentaux comme la connexion sociale, la reconnaissance et l'estime de soi, en offrant une plateforme où nous pouvons exprimer notre identité et recevoir des feedbacks positifs. Ils deviennent une partie intégrante de notre vie quotidienne. Comprendre ces mécanismes est crucial pour évaluer l'impact de l'utilisation excessive des réseaux sociaux sur notre santé mentale et développer des solutions pour minimiser les effets négatifs tout en permettant de profiter des aspects positifs de ces plateformes.
Merci beaucoup Emmanuel. Donc on a vu que l'addiction aux réseaux sociaux existait, qu'elle était encouragée par les développeurs et développeuses de réseaux sociaux. Et puis on a vu que ce n'était pas sans conséquence parce qu'au-delà de la dépendance, comme Nicolas Demorand l'expliquait dans son intervention, bah, ça peut vraiment créer de la souffrance. Toi, Aléna, tu as travaillé sur les conséquences psychologiques plus générales de cette addiction aux réseaux sociaux et tu vas nous en parler à partir de maintenant.
Bonjour, effectivement, je vais maintenant aborder avec vous les conséquences psychologiques que peuvent entraîner une addiction aux réseaux sociaux. Je vais tout d'abord présenter les impacts sur la santé mentale, puis poursuivre avec ses effets sur la concentration et la productivité. L'addiction aux réseaux sociaux peut conduire à des conséquences graves pour la santé mentale. Plusieurs études ont en effet montré qu'une utilisation excessive des réseaux sociaux est corrélée avec des niveaux plus élevés de dépression et d'anxiété. Une étude réalisée par l'Université de Pennsylvanie, par exemple, a révélé que la réduction du temps passé sur les médias sociaux à 30 minutes par jour avait des effets significatifs sur la diminution de la dépression et de la solitude chez les étudiants. Sans oublier que le fait d'être continuellement exposé à des images de vie parfaite et de succès extraordinaire peut faire qu'une personne se sente non seulement inadéquate, mais jalouse, des sentiments qui, plus que probablement, mènent à une mauvaise estime de soi sur le long terme. En combinaison avec les commentaires négatifs et le harcèlement en ligne, ces sentiments sont amplifiés, ce qui peut aggraver les troubles liés à la dépression et à l'anxiété. D'après une étude publiée dans Computers in Human Behavior, les adolescents qui subissent de la cyber-intimidation ont 3 fois plus de chances de développer des symptômes dépressifs. Je vais maintenant vous laisser écouter un extrait de l'épisode 4 d'une série de documentaires de la chaîne Arte appelée Dopamine.
6h, tu t'es levé, t'as pris ta douche, hop, ton jus, ton glace préféré. 7h30, tu t'arraches, ta cour de latin. Une notification sur TikTok? Jessica fait le nouveau Ponytail Challenge? Trop stylé! Allez, toi aussi t'en es capable. Jump into it, jump to it, crossfit, crossfit, jump to ça, gauche, jump to ça, droite, criss-cross, criss-cross, polypocket, jump to ça, criss-cross, criss-cross. 13h15, hôpital, double fracture de la malléole. Balek, les cicatrices, c'est trop thug. Et de toute façon, t'as TikTok pour chiller? Attends, quoi? Plus de data? Et même pas de wifi dans ce CHU tout pété? Là, t'as craqué. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état. T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction, la dopamine.
Dans les minutes qui suivent, nous allons dorénavant aborder comment la distraction permanente offerte par les réseaux sociaux peut considérablement diminuer la concentration et la productivité. J'aimerais poser la question à nous tous ici présents, ainsi qu'à nos auditeurs, qui n'a jamais été distrait pendant qu'il étudiait ou même travaillait, ou même en classe par son écran qui s'allume, dû à la réception d'une notification. Et en cédant à la curiosité de savoir de quoi il s'agissait, s'est retrouvé complètement déconnecté de la tâche qu'il faisait auparavant. Nous sommes sûrement plusieurs à être concernés par la question. Eh bien, une étude menée par l'Université de Californie à Irvine a révélé qu'à cause des interruptions dues aux notifications des médias sociaux, il fallait parfois jusqu'à 23 minutes à la personne pour retrouver la concentration qu'elle avait avant d'être interrompue. Les notifications incessantes des réseaux sociaux cassent le flux du travail et de l'attention, de sorte qu'il est presque souvent impossible de se concentrer longuement sur une tâche. J'aimerais d'ailleurs qu'on aborde le cas d'une plateforme assez populaire, TikTok, qui est un exemple parfait de l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur l'attention. Pour la présenter en quelques mots, TikTok, lancé en 2016 par la société chinoise ByteDance, sous le nom de Douyin en Chine, est une application de partage de vidéos courtes qui permet aux utilisateurs de créer et de visionner des clips de 15 secondes à 10 minutes aujourd'hui. Grâce à ses outils intuitifs d'édition de vidéos, ses filtres amusants et ses vastes bibliothèques de musique et de sons, TikTok est rapidement devenu un espace créatif pour les jeunes du monde entier. L'application a fusionné avec Musical.ly en 2018, ce qui a renforcé sa popularité en Occident. L'algorithme de TikTok, qui recommande des vidéos personnalisées en fonction des préférences de visionnage des utilisateurs, a joué un rôle crucial dans son succès. En 2020, TikTok est devenue l'application la plus téléchargée au monde, avec des centaines de millions d'utilisateurs actifs mensuels. Aujourd'hui, TikTok influence non seulement la culture populaire, mais les tendances musicales et même le marketing digital. Une étude publiée dans Neuromage a cependant révélé que l'utilisation excessive de TikTok peut altérer les circuits neuronaux liés à la concentration et à l'attention soutenue. Par ailleurs, il a également été démontré que les utilisateurs fréquents de TikTok ont une plus grande difficulté à se concentrer sur des tâches longues et complexes, en raison de la stimulation constante et de la gratification instantanée offerte par les courtes vidéos de la plateforme et la boucle continue de contenu qu'elle propose via le scroll infini. Le problème étant que cette interruption constante peut induire un sentiment de stress et de surcharge cognitive qui va affecter non seulement le bien-être en général des individus, mais aussi la capacité à se détendre. Une enquête publiée dans Journal of Applied Research in Memory and Cognition a mis en évidence que les interruptions fréquentes par les réseaux sociaux augmentent les niveaux de stress perçus et diminuent la satisfaction professionnelle.
Merci beaucoup Aléna pour ton passage. Donc là, on voit que les réseaux sociaux, en plus d'avoir ces mécanismes addictifs, ils ont des conséquences très concrètes sur nos activités quotidiennes, mais aussi sur nos goûts et nos habitudes. Le tout décidé par un algorithme, donc ça peut interroger. Et toi, Julien, dans la partie qui vient, tu vas nous présenter les conséquences plus sociales des réseaux sociaux. Mais pour faire contrepoids, tu nous parleras aussi des aspects positifs que peuvent avoir les réseaux sociaux, parce qu'on parle énormément des difficultés que ça pose, mais c'est bien aussi de rappeler et d'essayer ensuite de faire la balance entre les effets positifs, on va dire, et les effets négatifs. C'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est ça, je vais à présent vous parler des conséquences que l'utilisation des réseaux sociaux peuvent avoir sur les relations interpersonnelles. Donc je vais tout d'abord vous parler des effets néfastes qu'ont les réseaux sociaux sur ces relations, puis poursuivre sur les effets positifs qu'ils peuvent apporter. Donc tout d'abord, l'usage intensif des réseaux sociaux peut tout d'abord être associé à une baisse de la satisfaction dans les relations amoureuses et dans les relations en général, selon une étude de l'Université du Michigan. Cette corrélation est en grande partie attribuée à des sentiments de jalousie et à des comparaisons sociales négatives. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont souvent confrontés à des représentations parfaites de la vie d'autres utilisateurs, ce qui peut engendrer de l'insécurité au sein de leurs propres relations et de leur propre vie en général. De plus, une requête du Pew Research Center met en évidence que les utilisateurs considèrent que les réseaux sociaux ont détérioré la qualité de leurs relations personnelles. Bien qu'ils facilitent la communication en permettant de discuter avec des personnes qui se trouvent loin de nous, ils réduisent par la même occasion la profondeur et l'authenticité que peut avoir une connexion humaine. Ces communications n'ont pas autant de valeur qu'une discussion en face à face aux yeux de leurs utilisateurs. Au Japon, un phénomène nommé Hikikomori s'est développé et désigne des personnes, souvent des jeunes, qui se retirent de la société et s'isolent dans leur chambre pendant de longues périodes. Cet isolement est exacerbé par l'utilisation des réseaux sociaux qui permettent aux personnes recluses de rester un minimum en contact avec le monde extérieur, tout en restant cloîtrées dans leur chambre. À présent, nous allons écouter un extrait d'une vidéo du youtubeur et journaliste Hugo Décrypte, où des personnes qui se considèrent comme addictes aux réseaux sociaux et d'autres personnes qui ne les utilisent pas discutent de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur leurs relations.
Est-ce que les réseaux sociaux, en quoi ça peut avoir un impact négatif vraiment ?
Ça rend tes relations artificielles, en fait. C'est ça le problème, je pense.
Quand on va parler à quelqu'un, on ne saura pas exactement comment il est derrière son ordi. Tu ne sais pas s'il est content, tu ne sais pas s'il est vénère contre toi. Et du coup, je trouve que ça devient très hypocrite.
En fait, tu risques de faire passer des messages, de dire des choses qui, en dehors de ce contexte-là, tu ne les aurais jamais dites. Tu ne vas pas avoir sa réaction directe et tu ne vas pas te retenir et tu vas peut-être dire des choses qui vont le blesser.
Quand j'étais petite, j'étais très réservée. Et à partir du moment où je suis allée sur les réseaux sociaux, je me suis plus ouverte. Je n'avais pas beaucoup de potes dans la vraie vie, on va dire. Et du coup, je me suis fait des potes sur Internet. Ça m'a permis de m'ouvrir. Genre, j'ai eu beaucoup plus de confiance en moi. Je me suis fait beaucoup d'amis, autant en France qu'à l'étranger. Et j'ai jamais autant voyagé en fait que depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, tu sais que t'as besoin de revenir au réel. En fait, t'as besoin de connaître les gens qui sont derrière leur écran, qui te parlent, parce que des fois, tu peux avoir des très bonnes comme des très mauvaises surprises. Enfin, ce qui est dommage, c'est que sur Internet, t'as forcément une autre facette. Ouais. Genre moi, par exemple, dans la vraie vie, je suis très timide. Mais sur Internet, genre justement, t'as tous mes potes qui se foutent de ma gueule parce que je suis super réactive, je suis super sanguine, en fait. Genre. Et du coup, ça fait un contraste avec la vraie vie.
Nous avons donc vu que les réseaux sociaux ont des impacts négatifs sur les relations interpersonnelles de leurs utilisateurs. Cependant, ils ont également plusieurs bienfaits, comme l'explique l'une des personnes de cette vidéo. Nous allons maintenant voir plusieurs autres impacts positifs que peuvent avoir les réseaux sociaux. Tout d'abord, sur le plan du développement personnel, les réseaux sociaux permettent à leurs utilisateurs de se découvrir des talents plus facilement, selon une étude de Vishranti Roth. Cela peut être une passion pour la musique, qui se développe après le partage d'une réalisation qui rencontre du succès, ou encore la découverte de compétences particulières, telles que des compétences dans le domaine du design, avec la personnalisation de profils des réseaux sociaux. Ils peuvent également être la source de communautés d'entraide pour des personnes souffrant de problèmes similaires. Ces communautés peuvent servir de support pour des personnes souffrant par exemple de problèmes de santé, en leur permettant d'échanger avec des personnes ayant traversé les mêmes épreuves dans le but de trouver de l'aide. Les professionnels de santé peuvent encourager l'utilisation de ces outils pour informer les patients sur leur pathologie, ce qui est particulièrement utile compte tenu des délais d'attente parfois assez longs pour obtenir des rendez-vous médicaux. Dans la même idée, les réseaux sociaux peuvent également être pour des étudiants source d'aide pour des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, leur permettant ainsi de progresser et d'apprendre davantage. Selon une étude de Shabnour Siddiqui, les réseaux sociaux sont également un excellent moyen d'apprendre à ces jeunes utilisateurs les bases du marketing, une compétence générale qui peut s'avérer très utile une fois arrivé à l'âge adulte. Les réseaux sociaux ont donc un double impact sur le plan des conséquences sociales. D'un côté, une utilisation excessive peut avoir des effets très négatifs, en isolant et dégradant la santé mentale de leurs utilisateurs. De l'autre côté, ils peuvent également aider au développement personnel et offrir un soutien précieux en période de difficulté. Il est donc essentiel de réguler l'utilisation des réseaux sociaux et de traiter l'addiction pour minimiser les impacts négatifs.
Merci beaucoup Julien. Et pour cette dernière partie, Vivien, tu vas nous présenter un petit peu l'état de l'art des connaissances sur qu'est-ce qu'on peut faire en fait une fois qu'on est dans une situation de dépendance et peut-être aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver à une situation où les personnes sont en souffrance comme on a pu l'entendre dans le début de cette émission.
C'est bien cela. Alors bonjour à tous. Comme vous avez pu l'entendre avec l'intervention de mes collègues, prévenir et traiter l'addiction aux réseaux sociaux est un enjeu important. Une piste de travail est de mettre en place des stratégies de sensibilisation et d'éducation. Les plateformes utilisent des techniques de manipulation cognitive pour capter notre attention, ce qui rend la sensibilisation essentielle. Informer les utilisateurs sur ces techniques et les dangers potentiels de l'utilisation excessive des réseaux sociaux est une étape importante. Ces dernières années, plusieurs campagnes de sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux ont vu le jour. On a notamment l'exemple de campagnes réalisées par UNICEF ou le gouvernement allemand, entre autres. Cependant, la mise en place de ces campagnes est trop récente et nous n'avons pas encore suffisamment de données globales pour mesurer l'efficacité à long terme de ces politiques de sensibilisation. En ce qui concerne les politiques publiques, il y a des initiatives importantes à noter. Aux États-Unis, par exemple, un recours collectif déposé en mai 2024 par une jeune femme ayant souffert de dépendance aux réseaux sociaux montre une prise de conscience croissante des dangers associés à cette addiction. Ce recours vise à responsabiliser les plateformes pour les dommages causés par leur conception addictive. De plus, le Parlement européen a adopté un rapport appelant à des règles strictes pour limiter les techniques de manipulation psychologique utilisées par les plateformes numériques. Selon un communiqué de presse du Parlement du 12 décembre 2023, ces nouvelles règles incluent l'interdiction de techniques addictives telles que le défilement sans fin et la lecture automatique. Le passage d'une économie de l'attention, où le but est de garder les utilisateurs le plus longtemps possible sur les plateformes, à une conception éthique, et également la limitation des notifications non essentielles. Le Parlement appelle à développer des produits numériques éthiques qui ne reposent pas sur des intentions dissimulées et des conceptions addictives. Tous les services et produits en ligne doivent aussi être sûrs pour les enfants. Cependant, il est important de noter que ce rapport n'a pas force de loi. La Commission européenne doit maintenant examiner ses recommandations et décider si elle proposera une législation en conséquence. Si la Commission décide de le faire, la proposition de loi devra ensuite être votée par le Parlement européen. Si elles sont adoptées, la mise en œuvre de ces règles pourront servir de modèle pour d'autres régions du monde. En France, la loi du 7 juillet 2023 impose une majorité numérique de 15 ans pour l'inscription sur les réseaux sociaux, protégeant ainsi les jeunes d'une exposition excessive. On remarque que ce problème est de plus en plus pris en considération à l'échelle mondiale. À présent, j'aimerais vous faire écouter un extrait audio du témoignage d'une femme ayant développé une dépendance aux réseaux sociaux.
L'auteur et illustratrice Gemini Adams reconnaît avoir été une accro à Facebook. Elle a essayé de lutter contre son addiction en fermant tout simplement le site, mais aussi en se mettant au yoga. Désormais, elle ne consacre plus qu'une demi-heure par jour au réseau.
Je travaille à la maison en tant qu'auteur, je dois faire beaucoup de recherches et c'était toujours allumé. J'écrivais pendant une vingtaine de minutes et j'allais sur Facebook pendant un moment juste pour vérifier plusieurs choses. Et je pense que ce qui est dangereux, c'est qu'on y va juste pour quelques secondes pour vérifier, pour ajouter quelque chose et en fait on y passe 30 minutes. C'est une demi-heure de votre vie qui a simplement disparu.
Cette présence de Facebook accompagnait sa vie quotidienne.
Cette petite sensation arrivait, je voulais savoir si quelqu'un avait mis un commentaire sur quelque chose que j'avais écrit. Avant, je fumais, c'est très semblable cette sensation, ce besoin d'avoir quelque chose, de faire quelque chose.
Alors, dans ce témoignage, nous voyons que la dépendance aux réseaux sociaux peut toucher facilement n'importe qui les utilisant. La première étape pour se libérer de cette dépendance est de prendre conscience de son addiction. Pour réduire notre utilisation des réseaux sociaux, nous pouvons tous effectuer quelques changements personnels. Pour l'autrice que nous venons d'entendre, le fait de pratiquer du yoga lui a permis de réduire son utilisation de Facebook. Désactiver les notifications qui nous sollicitent constamment peut également aider à diminuer le temps passé sur ces plateformes. Il est aussi possible de masquer le contenu non désiré pour éviter d'être submergé par des informations non pertinentes. Enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des applications qui limitent le temps d'usage de certains réseaux sociaux ou les bloquent complètement. Pour ceux dont l'addiction est plus importante et plus ancrée, les thérapies cognitivo-comportementales, ou TCC, sont utilisées. Ces thérapies aident à comprendre et à modifier les comportements liés à l'usage excessif des réseaux sociaux. Elles comprennent des séances de relaxation, des exercices de reconstruction cognitive et des thérapies de groupe. Une étude publiée dans le journal JAMA Psychiatry en 2019 a montré que près de 70% des participants ayant suivi un programme de TCC ont vu leur addiction diminuer significativement. Ces résultats sont prometteurs et montrent l'efficacité potentielle de ces interventions. La régulation et l'autorégulation sont des éléments essentiels. Les discussions entre parents et enfants sur l'utilisation des médias numériques peuvent encourager cette autorégulation. Cependant, une approche plus globale impliquant des politiques publiques plus importantes est nécessaire, car l'autorégulation peut être difficile dans un environnement conçu pour être addictif. Il est également important de reconnaître que, pour certains, la vie sociale se déroule principalement sur ces plateformes. On retrouve l'utilisation des réseaux sociaux partout, que ce soit dans les établissements universitaires, les entreprises ou les organisations. Par exemple, à l'UTC, la vie associative est presque entièrement communiquée via les réseaux sociaux pour informer les étudiants, partager des annonces importantes et organiser des événements. Cette dépendance sociétale aux réseaux sociaux rend une déconnexion totale difficile, voire impossible, pour beaucoup de personnes. Cela soulève des questions sociales sur l'utilisation des réseaux sociaux, notre utilisation. Ne devrions-nous pas repenser l'organisation de nos communications pour réduire notre dépendance à ces plateformes ?
Eh ben merci beaucoup Vivien pour ton intervention. Du coup, c'est la fin de ce que vous avez préparé et on va pouvoir passer aux questions. Et ce que je trouve intéressant dans votre présentation, c'est que vous diabolisez pas les réseaux sociaux en tant que tels et qu'en fait, ça dresse un portrait plutôt ambigu où on a des réseaux sociaux qui sont à la fois poison pour certains, remède pour d'autres, voire les deux en même temps. Donc, on va essayer de creuser un petit peu ce paradoxe avec les questions. Alors, pour commencer, sur une question simple mais qui est importante pour la suite, Anna demande est-ce que le scrolling infini comme sur TikTok ou YouTube, donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le fait de pouvoir en fait avoir du contenu qui ne s'arrête jamais, où il n'y a jamais de fin, où il y a toujours quelque chose après, est-ce que ça augmente encore plus les risques d'addiction?
Moi je dirais que lorsque l'on découvre un contenu sur les réseaux sociaux, donc le cerveau va décréter la dopamine, une hormone qui est associée du coup au plaisir, etc. Et donc le fait qu'on associe cette découverte avec du plaisir va vous faire en sorte qu'on va vouloir toujours découvrir de nouvelles choses. Et comme le scroll infini le permet, le fait que les plateformes mettent en place du scroll infini va permettre à ces plateformes d'être plus addictives encore.
Oui, mais tout à fait. L'envie de nouveauté et puis simplement le fait que ce soit un geste super facile à réaliser, ça fait qu'en fait on passe vite 30 minutes, une heure sans s'en rendre compte. Anna demandait aussi, est-ce que l'addiction aux réseaux sociaux n'est pas augmentée par le phénomène de FOMO ? Je ne sais pas si ça dit quelque chose à l'un ou l'une d'entre vous.
Oui, donc le phénomène FOMO, c'est le phénomène Fear of Missing Out, donc c'est la peur de manquer une information. Et donc oui, l'addiction aux réseaux sociaux, elle est augmentée par ce phénomène, parce que grâce aux réseaux sociaux, on est toujours connecté avec la réalité, avec tout ce qui se passe dans le monde, et aussi avec toutes nos relations, avec tous nos amis. Et donc, les réseaux sociaux, ils vont augmenter... ce phénomène va augmenter l'addiction aux réseaux sociaux parce que on aura peur de manquer des infos. Par exemple, si je sais pas si notre groupe on a un groupe d'amis qui prévoit quelque chose, on a peur de manquer et donc du coup de ne pas pouvoir sortir avec nos amis ou d'autres exemples comme ça. Donc je dirais que oui, dans l'ensemble, l'addiction aux réseaux sociaux, elle est en partie due au phénomène FOMO.
Donc on voit que c'est un phénomène complexe qui n'est pas seulement l'œuvre de technocrates de la Silicon Valley qui ont étudié comment faire le plus possible une application addictive, mais c'est aussi des phénomènes sociaux qu'on connaît par ailleurs. Et du coup, ça rejoint bien la question d'Andrea qui demande à celles et ceux qui pensent qu'il faut supprimer simplement le fait d'aller sur les réseaux sociaux, si ne pas être sur les réseaux sociaux ne pourrait pas créer finalement l'isolement et l'éloignement par rapport à ceux qui le sont.
Moi, je dirais que comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la plupart des personnes sont inscrites et sont connectées dessus, ne pas être sur les réseaux sociaux, ce serait forcément rater des informations. Et donc, ça pourrait forcément créer une espèce d'isolement. Après, un isolement total, c'est difficile de parler d'isolement total, justement. Parce qu'il y aura toujours les connexions dans la vraie vie. Bien qu'il y ait des connexions peut-être en moins par rapport à l'utilisateur des réseaux sociaux.
Je rajouterais aussi que... personnellement, j'étais autrefois un gros utilisateur des réseaux sociaux et j'ai réduit ma consommation des réseaux. Mais il y en a certains où en fait, je n'arrive pas à les arrêter parce que ça me permet d'avoir des connexions avec des personnes que je n'ai pas forcément en dehors de ces réseaux. Et donc... du coup, je pense que oui, ne pas être sur les réseaux sociaux peut créer d'une certaine façon un isolement par rapport à ceux qui le sont, parce que du coup, ça supprimerait certaines connexions qu'on peut avoir qu'avec ces personnes.
Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, juste une petite chose. C'est vrai que en fait, ça nous provoque un manque parce qu'on a l'habitude du coup de ces réseaux sociaux, surtout si on utilise les réseaux sociaux depuis longtemps ou depuis jeune. Mais si on prend l'exemple de la société avant que ces réseaux sociaux, que ces plateformes soient créées, il n'y avait pas... les gens faisaient sans et il n'y avait pas pourtant de gros isolement social.
Et donc, à ce sujet, toujours Andrea demandait, est-ce que ce serait pas mieux de promouvoir un usage raisonnable des réseaux sociaux plutôt que la suppression totale des réseaux ? Donc là, c'est à vous un peu de donner votre avis. Et si oui, qui en fait se chargerait de faire cette promotion, cette sensibilisation-là ? À qui ça devrait être le rôle ?
Pour moi, les réseaux sociaux, justement, c'est leur utilisation qui est parfois un petit peu déraisonnable parce qu'on voit, on a bien vu que ça a apporté beaucoup de choses. Et par exemple, si on prend l'exemple à l'UTC, les réseaux sociaux, ça permet d'informer tous les étudiants des événements en donnant plein d'informations. Les étudiants peuvent aussi poser des questions, etc. Donc c'est vraiment les réseaux sociaux qui vont unifier tous les étudiants sur une seule plateforme. Donc on voit bien que c'est assez important. Et donc ce qui pose problème, c'est les usages excessifs et déraisonnés. Et donc ce qui pourrait être... mis en place pour éviter ces usages excessifs. Ça pourrait être de la prévention en général, surtout, selon moi, dès le plus jeune âge, que tout le monde soit sensibilisé à ça pour éviter de tomber dedans plus tard.
Oui, après, on peut utiliser également des réseaux sociaux qui n'utilisent pas les mécanismes addictifs des plateformes les plus connues. Après, le problème avec ça, c'est qu'il faudrait que tout notre cercle d'amis aille sur les mêmes réseaux sociaux, que tout un groupe aille sur les mêmes réseaux sociaux, ce qui peut être compliqué quand les réseaux sociaux ne sont pas assez connus.
Mais justement, Jean-Baptiste posait la question s'il existait des réseaux sociaux non addictifs. Est-ce que tu penses à un réseau social en particulier
Je sais qu'il y a Mastodon,
ouais,
qui est un réseau social libre, décentralisé, qui n'utilisent pas justement ces mécanismes. Après, c'est pour l'utiliser, c'est une étape bah, il faut apprendre à le connaître, à l'utiliser et que tous ses amis puissent faire de même.
Bien sûr, c'est comme tout. Mais notons que, d'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient faire des transitions sur des outils, c'est toujours possible de garder deux comptes en même temps, de poster en même temps sur l'un et sur l'autre, puis de faire venir petit à petit des amis. Enfin voilà, évidemment, du jour au lendemain, ça ne changera pas. Léna, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rajouter que je pense qu'on peut pas vraiment se compter sur les plateformes justement addictives comme TikTok ou les plateformes de réseautage entre guillemets pour nous empêcher nous les utilisateurs de ne pas devenir addicts parce qu'elles ont véritablement été créées pour qu'on soit addict à elles. Et il y a toutes des unités, il y a des départements par exemple du UX, donc User Experience, des départements donc d'expérience utilisateur, des départements d'interface utilisateur qui ont été des professionnels qui travaillent sur le sujet justement pour que on puisse difficilement se détacher de ces écrans là et je pense que la solution réside vraiment un peu comme Vivien l'a mentionné dans son passage sur le fait que de nous utilisateurs et utilisatrices etc de se rendre compte que nous sommes addictifs et de mettre des moyens par exemple je crois sur certains smartphones tu peux limiter ton temps d'écran, tu peux programmer une fermeture automatique de telle application quand tu as déjà passé par exemple 2 heures, 1 heure ou 30 minutes. Donc je pense que ça réside vraiment à l'utilisateur lui-même de se rendre compte et d'agir en conséquence.
Merci Aléna, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que ça montre bien que c'est pas un hasard que ces produits soient particulièrement addictifs puisqu'il y a des gens dont c'est le métier. Alors juste pour rappel, on pourrait se demander mais pourquoi ? Parce que c'est pas des grands méchants de films, leur but c'est pas de dominer le monde, juste tout simplement et très rapidement, c'est parce que leur modèle économique est fondé sur la récolte de données personnelles et leur revente ou la proposition de publicité, de ciblage. Et donc, plus vous êtes sur la plateforme, plus vous générez de données, plus ça fait de revenus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais du coup, ce qui me questionne dans ta réponse, et ça rejoint un peu la question d'Anna, c'est que... Alors, Anna demande, est-ce que l'addiction est de la responsabilité de l'utilisateur ou des gestionnaires des réseaux sociaux ? Donc là, on a plutôt tendance à dire que, en tout cas, pour partie, c'est les gestionnaires des réseaux sociaux qui, volontairement, en connaissance de cause, le font. Du coup, est-ce que finalement, c'est vraiment aux instances éducatives et aux gens de s'auto-réguler, sachant qu'il y a vraiment cette difficulté, quoi. C'est, si je peux me permettre, un petit peu comme si on envoyait un peu de morphine à tous les jours à des gens dans le sang, et puis qu'on leur disait bon, « gérez votre addiction, quoi. N'en prenez pas trop ». Enfin voilà, bon, moi je le vois comme ça. Vous, comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez d'autres interventions possibles que celle de la sensibilisation et de l'autorégulation qui peut être difficile à mettre en place, hein. Je pense qu'on a toutes et tous vécu le fait que partir des réseaux sociaux, c'est pas facile pour les raisons évidemment de groupes sociaux, et ça on comprend très bien, mais aussi parce que bah, des fois, juste on se sent con, quoi.
Oui, c'est vrai, alors c'est un peu... Dans les deux cas, il faut modérer son utilisation du côté de l'utilisateur, mais aussi du côté des plateformes. Du coup, pour les plateformes, c'est vrai qu'en plus de la sensibilisation, etc., je pense que c'est au niveau des gouvernements qui doivent imposer des règles strictes sur ces réseaux sociaux pour bloquer les mécanismes qu'ils peuvent utiliser pour rendre leur plateforme très addictive.
Ben merci beaucoup. Justement, tout à l'heure, tu nous parlais d'un rapport qui avait été rendu au Parlement européen qui proposait en tout cas d'interdire directement, dès la conception, les mécanismes addictifs. Moi, la question que je vais vous poser, c'est en fait, si jamais ces mesures passaient en empêchant les plateformes de mettre en place des stratégies qui sont addictives, ce serait un énorme problème pour toutes les grandes plateformes aujourd'hui du numérique parce que énormément de leurs revenus pourraient s'effondrer. Est-ce que vous croyez que un gouvernement ou le Parlement européen aurait des chances d'adopter un texte aussi fort ? C'est vraiment une question ouverte.
Moi, je pense que ça pourrait être difficile. Par exemple, on a l'exemple du RGPD en Europe qui justement a appliqué des règles sur l'utilisation des données, etc. Mais on voit que, en fait, finalement, elles ne sont pas forcément respectées. On ne sait même pas si elles sont respectées ou non, parce que c'est assez flou sur l'utilisation que font les plateformes. Donc elles ne sont pas respectées. Et on peut même prendre l'exemple de certaines plateformes qui ont des budgets associés pour, aux amendes que justement ce RGPD ou d'autres règles pourraient causer à ces plateformes. Donc pour moi, ça pourrait être peut-être à peu près la même chose si ces règles passent, où on aurait soit des plateformes qui réussissent à passer au travers ou à justement juste payer des amendes.
Alors c'est très vrai, mais déjà le fait que le RGPD ait été adopté, c'est déjà un truc étonnant, parce que c'est quand même... après on pourrait dire que c'est pas si étonnant parce que c'est peut-être anti-américain et qu'on voudrait avoir nos GAFAM européens, mais quelques milliards d'amendes, le fait que Meta n'ait pas sorti son nouveau réseau social en Europe juste avant à cause du RGPD, et que maintenant on puisse cliquer sur tout refuser un peu partout quand on se balade sur Internet, c'est des effets tangibles du RGPD, donc ouais, finalement... On verra, quoi. Affaire à suivre. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ?
Non.
Non ? Eh bien, merci beaucoup pour cette émission. Moi, j'ai quelque chose à ajouter. J'aimerais finir, mais du coup, sur une note tout à fait personnelle, d'une citation que j'avais trouvée assez imagée, que j'avais lue il y a quelques années, qui disait « Sur son lit de mort, personne ne se dit « J'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook. » Voilà, bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Merci encore à vous quatre d'avoir partagé votre travail et à une prochaine. Ciao.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.